dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans l'Amérique et vous, édition du vendredi 28 juin 2024. Vous êtes sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington, D.C., la capitale fédérale des États-Unis. Ce soir, nous parlons du CNN Presidential Debate, le débat ayant opposé le président Joe Biden à son prédécesseur, Donald Trump. Les deux hommes se sont affrontés sur la chaîne CNN dans la perspective de l'élection présidentielle américaine prévue en novembre 2024. Nous en parlons avec nos invités, Junior Bonpetit, militant républicain, fondateur du mouvement Congolese for Trump. Bonsoir, Junior Bonpetit.
Bonsoir, Mamadou.
Et nous avons, depuis New York, Laziz Charé, il est enseignant de linguistique et d'anthropologie au St. John's University. Bonsoir, Laziz.
Bonsoir, Mamadou.
Voilà, nous aurons donc deux invités aujourd'hui pour un débat sur le débat sur la présidentielle de Donald Trump et de face à Joe Biden. Nous retrouvons dans quelques instants nos invités pour les échanges. On commence par Laziz Charé. Laziz Charé, vous avez suivi le débat hier ayant opposé Joe Biden à son prédécesseur Donald Trump dans la perspective, je le disais, de la présidentielle de novembre 2024. Alors Laziz, comment avez-vous trouvé le président Joe Biden? Il y a eu tellement de spéculations sur son âge, son état de santé, sur ses sorties de face aux médias, devant les chaînes de télévision. Comment l'avez-vous trouvé, Laziz?
Alors, une très bonne question. Je pense que tout le monde a suivi le débat. Je pense que le président Biden, il a eu des difficultés d'entrer des jeux dans le débat. Mais après, le plus important, c'est la substance de ce qu'il a dit, parce qu'il a donné son bilan durant les quatre dernières années. Il a également attaqué le président Donald Trump sur ses mensonges, n'est-ce pas, tout au long du débat. Donc, dans l'esprit des démocrates, ils sont démoralisés, bien sûr, par... l'âge du président et ainsi sa performance au niveau de la forme. Mais dans le fond, la substance, elle est là. Le candidat républicain est incriminé, n'est-ce pas, par la justice. Et tout le monde a vu ce qui s'est passé. Donc,
c'est bien. Oui. Oui, on va revenir sur le fond. Vous dites que ce qui compte, c'est la substance. Mais l'homme que vous avez vu, son état de santé, sa posture, est-ce que ça vous rassure d'avoir un chef d'État comme ça pour les quatre prochaines années? Est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiet?
Alors, c'est tout à fait normal que les gens soient inquiets, surtout quand il a commencé le débat avec une santé frêle. On ne peut pas se mentir là-dessus. Mais le plus important, ce sont les institutions. Il est donc le chef du Parti démocrate. Malheureusement, il a apparu hier comme étant un président fatigué, malade. Mais dans le fond, c'est la substance qui a prévalu parce qu'il a dit exactement ce qu'il devait dire. Et il a présenté son bilan, il a attaqué le président Trump dans ses mensonges, et c'est l'essentiel que moi j'ai retenu.
Voilà. De ce débat. On va revenir vers vous pour en parler, donc justement de la substance de ce débat. Retournons-nous immédiatement vers Junior Bonpetit, qui est au Texas, qui est militant républicain, fondateur, je l'ai dit, du mouvement Congolese for Trump. Alors, Junior Bonpetit, comment est-ce que vous avez trouvé Donald Trump et votre candidat? Juste rappeler aux auditeurs que Donald Trump a attaqué le président Joe Biden. Il a par exemple dit que lui, il avait réussi deux tests cognitifs et physiques. Il a même dit qu'il venait de remporter deux championnats de golf. On imagine que, Junior Bonpetit, vous êtes en phase avec la sortie de votre champion.
Exactement. Et hier, j'étais joyeux. Et au même moment, j'étais un peu triste.
Je commence par le sentiment de joie parce que nous avons vu un président Donald Trump qui était en super forme physique, sa prestance et son intonation, il rassure. Lorsqu'il parle, vous voyez que c'est ça un leader sur le plan national et surtout sur le plan international. C'est le chef de retour, c'est un visionnaire, quelqu'un qui est précis, concis et ce qu'il dit, c'est clair, c'est audible. Par contre, j'ai été triste parce que quand même les États-Unis, c'est l'hyperpuissance du monde. Vous voyez, alors nous avons vu un président titubant, nous avons vu un président peu rassurant, il est fatigué, il est malade. Moi, j'ai eu vraiment pitié de lui parce que c'est quelqu'un qui a travaillé pour ces pays pendant plus de 40 ans comme sénateur, 8 ans comme vice-président, 4 ans comme président. Il est temps pour lui que les démocrates puissent laisser président Joe Biden se reposer parce qu'il a droit au repos. Et maintenant, il ne peut plus. Il ne peut plus pour les 4 prochaines années. Il ne saura plus diriger les États-Unis. Il faut avoir les nerfs solides pour diriger ces pays. Et le monde entier a vu. Pendant que tout le monde, les yeux étaient fixés sur ce débat, à la 13e minute, nous avons vu un monsieur perdu. Il ne sait même pas ce qu'il lui-même disait et il est confondu, vous voyez. C'est vraiment une image qu'on ne peut pas malheureusement montrer à la télé et c'était en direct. Alors je conseille les démocrates, s'il vous plaît, cherchez un autre candidat pendant votre congrès pour représenter votre parti qui est aussi un grand parti. Mais quant à nous, le président Donald Trump signe son retour et ce retour en puissance, il a été direct et clair dans ses propos et c'est que nous voulons l'Amérique de Donald Trump, America is back.
Alors, entrons dans le fond du débat avec l'Aziz Charré. L'Aziz, commençons par évoquer l'immigration, hein, une question qui intéresse évidemment beaucoup d'Américains. Donald Trump a saisi cette occasion pour une fois de plus accuser l'immigration de causer l'insécurité, hein, l'immigration illégale de causer l'insécurité aux États-Unis. Il a dit qu'à cause de la politique ridicule, insensée et je cite très stupide, des gens arrivent et tuent nos concitoyens à un niveau que nous n'avons jamais vu, a démenti évidemment Joe Biden qui lui, hein, il a pris en début juin un décret qui fermait temporairement la frontière avec le Mexique dès qu'une limite quotidienne est atteinte. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé les deux candidats sur la question migratoire?
Je pense qu'il faut être quand même sérieux. Nous avons suivi tous le même débat. Le président Trump n'est pas sérieux parce que déjà c'est un raciste qui avait promis de chasser tous les musulmans et les Noirs ici aux États-Unis. Alors qu'ils reviennent avec des propos démagogiques pour rappeler les mêmes histoires que nous avons connues avec lui durant les 4 dernières années de son mandat. Il a eu 4 ans pour résoudre ce problème et il n'a absolument rien fait. C'est le président Biden qui arrive, qui signe un ordre exécutif pour trouver des solutions à ce problème, qui a proposé, n'est-ce pas, une solution bipartisane en sorte que la situation des gens en situation irrégulière ici aux États-Unis trouve, n'est-ce pas, de l'issue. Donc c'est le président Biden en exercice qui est en train de se battre pour résoudre le problème migratoire sur le sol américain. Trump n'a absolument rien fait durant les 4 dernières années. Je ne pense pas que c'est durant les 4 prochaines années qu'il aura une solution migratoire pour les États-Unis en dehors de chasser, n'est-ce pas, les étrangers, en dehors d'être xénophobes vis-à-vis de tous ceux qui ne sont pas de son MAGA régime. Mais je pense que vous avez vu un contraste, un président expérimenté, malade bien sûr, mais qui est en train de résoudre un certain nombre de problèmes. On ne peut pas passer toute sa vie à dire aux étrangers qui volent, n'est-ce pas, de l'emploi à ceux qui sont à l'intérieur des États-Unis, quand on sait que les États-Unis, c'est le pays des étrangers. Tous ceux qui sont aujourd'hui des grandes personnalités qui ont créé des entreprises, la plupart d'entre eux sont des étrangers et la politique immigratoire ici aux États-Unis, ça pose problème du côté républicain parce qu'ils jouent la manipulation, la démagogie sans toutefois trouver des solutions à ce problème. Justement parce qu'ils ont peur de la démographie. Si la démographie change, ils vont perdre le pouvoir à vie. Voilà pourquoi ils ont peur des étrangers et ils pensent que les démocrates acceptent les étrangers tout simplement pour gagner les élections. Mais ils oublient de rappeler aux gens que ce sont les immigrés qui ont construit les États-Unis. On ne peut donc pas parler des États-Unis, grande puissance, sans les étrangers.
Oui. Alors, Junior Bonpetit, vous allez réagir à ce que vient de dire l'Aziz, mais je voudrais déjà vous interroger sur la sincérité même du président Donald Trump. Je lisais tout à l'heure un rapport du Migration Policy Institute qui dit qu'il n'y a pas véritablement de preuves pour étayer les affirmations de Donald Trump selon lesquelles les prisonniers et les personnes vivant dans les établissements psychiatriques affluent depuis la frontière mexicaine. Est-ce que accuser comme cela les migrants venus du Mexique et d'autres pays d'être la source des malheurs des Américains, est-ce que ce n'est pas un peu « play with politics » comme on dit ici aux États-Unis?
Moi, je vais aller tout droit. Sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec notre président Donald J. Trump, que comme ça, qualifier des gens qui sortent de prisonniers et qui sortent de prison et tout ça, des criminels. Là, je ne suis pas d'accord, aller à l'extrême, vous voyez. Mais la puneuse question de l'immigration, c'est quoi? C'est qu'il faut rétablir les choses ici. C'est vrai, monsieur a dit que l'immigration, les États-Unis, c'est un pays des immigrants. Oui, nous sommes d'accord. Mais les républicains ont toujours été d'accord avec l'immigration légale. Nous en sommes d'accord avec l'immigration légale. Vous pouvez consulter les records pendant l'administration Obama et Joe Biden. Ils ont plus de gens que pendant Donald Trump, pendant les 4 ans passés de Donald Trump. Vous voyez, nous sommes pour l'immigration légale. Venez, il y a des lois fédérales et des lois internationales qui régissent l'asile. Vous voyez, vous venez à la frontière, vous avez le visa, vous demandez pour une raison ou une autre. Mais venez ouvrir les frontières avec plus de 18 millions d'immigrants illégaux. Ça, ce n'est pas normal. Pourquoi ils n'ont pas fait ça pendant le président Trump, les cantons de président Trump? Parce qu'ils ont vu maintenant un faible leadership. Vous voyez, nous avons des cas isolés comme ça à New York, ou des cas à cette étudiante de la science infirmière à Atlanta qui a été tuée par un immigrant illégal. Vous voyez, donc ce sont des cas comme ça. Donald Trump a implémenté des policies, des lois comme rester au Mexique. Vous demandez l'asile, vous restez au Mexique jusqu'à ce qu'on va traiter votre dossier si vous êtes approuvé et vous entrez dans le sol américain. Et il avait aussi instauré, c'est-à-dire si vous êtes au sol américain, vous êtes illégal, vous commettez un crime, on vous arrête, on vous déporte au Mexique, à la frontière, excusez, et à partir de cela, on traite votre dossier et vous entrez si vous êtes légalement. Et qu'est-ce que nous avons vu avec le président Biden? C'est qu'il a fait catch and release, c'est-à-dire vous commettez un crime, on vous arrête un moment, et on vous relâche. Ce qu'il a fait, c'est que les frontières sont plus heureuses. Chez nous, ici, nous sommes au Texas, chaque jour, malgré cette fantaisie de loi fermer temporairement les frontières, c'est qu'au moins 500 immigrants illégaux entrent chaque jour aux États-Unis, à la frontière du Sud. Vous voyez, donc, l'hémorragie est encore là. Nous sommes d'accord, il faut qu'il y ait des gens, mais derrière cette immigration illégale, ils ont de faim. Le monsieur a effrôlé cela, que nous, les républicains, nous avons peur de changer la démographie. Donc, vous favorisez l'immigration illégale pour que ces derniers puissent venir, puisque vous l'avez favorisé, et vous donnez les papiers pour qu'ils votent pour vous. Vous voyez, ça c'est mesquin, ça c'est mauvais. Vous voyez, ça c'est contre la démocratie même. Vous voyez, alors nous voulons qu'il y ait des lois, des règles à respecter pour tout le monde. Vous venez, nous tous, nous ne sommes pas natifs dans ces pays. Nous sommes venus à un certain moment et nous avons demandé les papiers en bonne et due forme. Certains sont venus avec le DV Loterie, certains sont mariés, certains ont demandé l'asile en bonne et due forme. Et suivez la loi, respectez la loi pour tous et pas faire des exceptions. Ça, c'est les démocrates. Ce sont des gens qui sont là en train de leurrer certains immigrants. On vous donne les papiers, mais tout en n'est pas en respectant pas les lois et règles qui régissent une grande nation comme les États-Unis. Donc, le président Trump est pour l'immigration légale. Ça doit être clair dans les esprits. Nous voulons l'immigration légale, pas l'immigration illégale, et entrer dans les frontières sans l'autorisation du pays.
Mmh. Merci. Alors, parlons maintenant de l'inflation. Hein. C'est l'un des points sur lesquels les deux candidats étaient attendus. Vous comme moi, nous vivons aux États-Unis. Vous savez que les prix s'envolent. Hein. Alors, sur cette question, Joe Biden a accusé Donald Trump d'avoir créé l'inflation. Et l'actuel président a accusé son prédécesseur d'avoir décimé l'économie au cours de ses 4 années à la Maison-Blanche. Mais Donald Trump, lui, pense que ce sont des politiques menées par le président Biden qui ont causé cette situation, vu que quand il partait, l'inflation était d'environ 1,4%. Alors, Lazis, comment est-ce que vous avez trouvé les deux candidats sur cette question? Est-ce que vous pensez que Joe Biden peut réussir à convaincre les Américains, puisque c'est sous son magistère que l'inflation a évolué en flèche?
Bon, je pense que, voilà, sur les questions économiques, Donald Trump n'a pas assez d'arguments pour convaincre les Américains. Tout simplement, pourquoi? Les Républicains sont très forts pour couper les taxes, n'est-ce pas, des 1% qui ont les moyens, n'est-ce pas, en milliards, et qui ne payent pas les taxes. D'ailleurs, lui-même, il ne paye pas les taxes. Donc, s'ils reviennent aujourd'hui nous convaincre qu'il y a un problème d'inflation, alors que c'est lui qui a coupé les taxes aux riches et qui a mené une politique qui a décimé, n'est-ce pas, le budget des États-Unis, c'est quand même hypocrite qu'il en soit aujourd'hui en train de se plaindre des mesures démocrates qui essaient de résoudre ce problème. Sous Joe Biden, il a pris le courage et il a dit, nous allons taxer les riches en sorte que le middle class, c'est-à-dire la classe moyenne, ait un peu de ressources pour vivre, parce qu'on ne peut pas écraser le middle class pour protéger les top 1% aux États-Unis, et ça donne là une économie capitaliste inhumaine qui exploite les pauvres et détruit donc, n'est-ce pas, les fondamentaux de l'économie des États-Unis. Donc, Donald Trump n'a pas assez d'arguments. Nous savons de tradition que ce sont des réformes, n'est-ce pas, des démocrates qui rassurent l'économie, parce que même l'économie que Donald Trump a héritée, c'était l'économie de Barack Obama. Obama est arrivé en 2000. Oui, avec le désastre de George Bush, avec toutes ces guerres que vous connaissez, il a fait des réformes courageuses, il a sauvé les banques, il a sauvé des grandes sociétés qui étaient en train de se détruire, il a sauvé le real estate, et Donald Trump arrive avec les flambées, n'est-ce pas, des retombées de la politique de Obama, et quand il repart, il veut réclamer, n'est-ce pas, les fruits des réformes courageuses menées par des démocrates, à chaque fois qu'ils ont pris les commandes de l'économie des États-Unis. Donc, l'économie de Joe Biden, tout le monde est au courant de ça. Nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas, la création des emplois sans précédent pendant les 150 dernières années. Donc, alors, quand Trump veut même parler de l'économie, il ressemble à un comédien. Parce que quand il était au pouvoir avec le Covid-19, nous connaissons tout le désastre que cela a créé. Nous connaissons le sous-emploi que cela a créé. Et quand il prétend qu'il est, n'est-ce pas, le candidat des Noirs, je suis désolé, ce n'est pas possible qu'il prétende, n'est-ce pas, ce genre de politique sur le terrain américain, alors que tout le monde sait qu'il a été raciste et tout le monde était inquiet durant sa présidence. Donc il ne peut absolument pas avoir des arguments solides vis-à-vis des démocrates dans cette élection.
Junior Bonpetit, il faut quand même préciser qu'il y a plusieurs facteurs, hein, qui ont causé l'inflation. Par exemple, tous les milliards de dollars injectés dans les plans d'aide des administrations Trump et Biden face à la pandémie du Covid-19. Il y a eu également des difficultés à l'international avec la guerre en Ukraine et tout cela. Est-ce que Biden peut et doit assumer tout seul cette inflation? Est-ce que votre candidat aussi n'est pas quelque part responsable de la situation?
Merci pour la belle question. Et j'aimerais quand même qu'on puisse recadrer les choses. Lorsque le président Trump a eu le pouvoir, avant la COVID-19, en 2019 déjà, l'économie américaine était florissante. Et nous avons eu une économie que nous n'avons jamais connue. Et il y a eu cette histoire, il y avait la bourse était très, très élevée pendant que tout le monde ne s'y attendait pas. Et nous avons, en 2020, nous avons connu cette pandémie qui a touché non seulement les États-Unis, mais l'économie du monde, l'économie mondiale. Les États-Unis n'est pas une île, donc le pays a aussi été affecté. Mais pendant ces moments-là, nous avons vu comment un bon leadership a donné des réponses adéquates et à temps. Vous voyez, donc le président a mis toutes les technologies, les entreprises en marche. Nous avons produit, ils nous ont produit les vaccins à un temps record qui ne s'est fait pas, ça prend peut-être 10 ans, mais en une année, en 12 mois, nous avons eu déjà les premiers vaccins. Vous voyez, de deux, président Donald Trump a mis ces programmes qu'on appelle Paycheck Protection Program, c'est-à-dire injecter de l'argent dans les entreprises, surtout de tourisme, les hôtels, les secteurs d'aviation, À l'époque, je travaillais dans une compagnie d'aviation. Comment on était en train de chasser les gens du boulot. Et le président, avec ses programmes, a injecté de l'argent pour supporter les paiements, les salaires des entreprises, des restaurants et tout ça. Vous voyez, ça, c'est un leadership visionnaire. Et avançons, allons cela. Alors, l'économie a été affectée dans la production, dans tous les secteurs, parce que les gens restaient plus à la maison. Et malheureusement, il y a eu changement de leadership. Nous avons vu comment président Biden a fait des choses pour les gens qui restaient à la maison, recevaient beaucoup plus d'argent que ceux qui allaient travailler. Ouais, et ça, ça a touché sur le panier de la ménagère. Aujourd'hui, tout le monde est en train de pleurer. Aujourd'hui, les prix du pain, des œufs, de l'eau est à 25% en augmentation. Nous pouvons sentir sur notre bourse qu'il n'y a pas l'argent, l'argent ne circule pas. Vous voyez? Donc, ça, c'est tout Américain est conscient de cet aspect des choses. Et aussi, cette politique de victimisation et accusation gratuite, dire que le président Donald Trump est un raciste. Et nous ne pouvons pas démontrer cela. Le président, avant qu'il soit président, il a été manager comme un grand boxeur comme Mike Tyson. Il a toujours été avec le noir. Et jusqu'à ce qu'il a commencé à concourir pour être président, que tout le monde crie du fait qu'il est raciste, ça c'est trop facile. Ça c'est la politique de victimisation pour chercher la minorité. Donc, président Donald Trump est un président pour tout le monde, pour l'inclusion de tous les Américains. Ce pays est un pays de tout le monde. Il n'y a pas une race de suprématie. Voilà. Donc, sur le plan économique, président Trump a donné et a fait une taxe aux entreprises américaines qui s'est installées en Chine. Alors, le business est revenu, les affaires sont revenues aux États-Unis. Il a donner 1% aux riches. Qu'est-ce qui se passe exactement? Lorsque les riches reçoivent beaucoup plus de taxes, ils ont plus d'argent, ils les réinvestissent cet argent dans l'économie et il y a beaucoup de boulot. Le taux de chômage à cette époque était 3,5% le taux de chômage parce que les entreprises avaient beaucoup d'argent. Alors les démocrates ont cette politique de taxer plus et de prendre l'argent redistribué aux gens. Ça, l'État redistributeur n'existe pas. Nous voulons travailler. Ce pays, c'est un pays American Dream. Les rêves américains, il faut aller travailler. Il ne faut pas que quelqu'un il travaille dur et vous êtes là pour profiter, n'est-ce pas, des efforts des autres. Alors nous, les républicains, nous sommes pour réduire les taxes. Plus les taxes sont réduites et les entrepreneurs ont plus d'argent, ils extendent leur entreprise. Et beaucoup de gens ont du boulot. Voici un peu la divergence de notre façon de voir les choses dans la politique.
Oui, alors, on vous a bien suivi. Malheureusement, l'émission est en train de tirer vers sa fin. Je voudrais rapidement évoquer l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021 qui a été abordé par les candidats. Alors, Donald Trump a réitéré que sa victoire lui a été volée et il ne s'est pas engagé formellement à reconnaître le résultat en cas de défaite en novembre prochain. Est-ce que l'Aziz Charest, cette posture vous effraie? Est-ce que c'est de nature à rassurer les Américains?
Nous ne pouvons pas être effrayés, n'est-ce pas, par la réaction de Donald Trump. On n'est pas surpris. C'est quelqu'un qui joue les victimes à chaque niveau. Il a eu plus de 60 plaintes dans le cadre des dernières élections et il a échoué dans toutes les justices ici aux États-Unis. Donc c'est tout à fait normal. Il risque de ne pas reconnaître sa défaite la prochaine fois. Mais il y a des dispositions légales qui sont prises pour protéger, n'est-ce pas, la véracité des urnes aux États-Unis, la transparence des urnes aux États-Unis. Quand les gens votent, leur résultat est reflété par rapport à ce qu'ils ont présenté dans les urnes. Donc, sur ce point-là, on ne s'inquiète pas. Mais nous voulons juste dire que Trump, c'est quelqu'un qui ment beaucoup, qui n'est pas honnête, qui est psychopathe et qui ne veut même pas dire la vérité. Hier, dans le débat, en moins de 45 minutes, il avait déjà étalé tellement de mensonges que CNN a voulu corriger. Et c'est tellement dommage parce que ce qui me fait peur, c'est le fanatisme derrière Donald Trump. C'est-à-dire, même étant incriminé, condamné, quelqu'un qui va en prison, les gens sont en train d'applaudir derrière lui. Je préfère encore quelqu'un qui est malade, parce que voilà, il peut être remplacé par son vice-président. Il n'y a aucun problème. Les institutions américaines fonctionnent. Mais quelqu'un qui est prisonnier, vous êtes en train d'applaudir un monsieur qui va en prison pour qu'il devienne président aux États-Unis. Et vous dites qu'il n'y a pas de racisme aux États-Unis. Si c'était un noir qui avait posé les actes que Trump est en train de poser, il serait déjà en prison. Si c'était Obama qui avait fait ce qu'il a fait là. Et il est condamné avec 34 chefs d'accusation. Je pense que Obama serait aujourd'hui en prison parce qu'il est noir. Oui. Vous dites qu'il n'y a pas de racisme aux États-Unis.
On vous a bien suivi. On va donner une minute à Junior Bonpetit pour réagir sur cette question de l'assaut du Capitole et de l'attitude de Donald Trump en novembre prochain, éventuellement.
le président Donald Trump a condamné la violence, il est contre la violence, toute forme de violence, et il a rassuré, lorsque les règles sont bien claires, bien définies, il va reconnaître la victoire ou le résultat serait. Donc c'est clair, il n'y a pas d'ombrage dans cette question.
Lorsque les règles sont bien définies, les règles qu'il a parfois contestées, non, Junior Bonpetit?
Nous savons tous, on ne voit pas, c'est un secret de politiciens. Nous avons vu ce qui s'est passé en 2020. Vous voyez, nous, les gens bourrés de mails, les gens qui n'étaient pas éligibles, ils n'étaient pas américains de voter, ils ont le droit de voter. Nous savons, les exemples sont les gens. Alors, nous voulons une élection crédible, une élection sincère, une élection qui va rassurer. Lorsque ces ingrédients sont mis en place, nous allons respecter le règle de l'art. Donc, si ces choses ne sont pas réglées, la position restera la même.
Merci beaucoup, Junior Bonpetit, militant républicain, fondateur du mouvement Congolese for Trump. Nous remercions également Laziz Charé, qui est enseignant de linguistique et d'anthropologie au St. John's University à New York. Cette émission, vous pouvez la retrouver en ligne sur notre site web voaafrique.com et sur nos différentes plateformes digitales. À ce micro, Mouhamadou Oumpa, je vous remercie d'avoir écouté. À très bientôt sur ces mêmes antennes. Au revoir.